Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale. Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
The good. The bad. The ugly.
T'aurais pas vu une moitié de cigare? Un blondin, très grand, et qui parle peu. Mais on est seuls, toi et moi. J'ai que toi et tu n'as que moi. À deux, vous irez encore plus vite. Creusez. Peut-être que tu me dises où tu m'emmènes, tout court. Tu ne crois pas que c'est le moment? Je t'emmène vers 200 000 dollars. Qu'est-ce que tu dis de ça, blondin?
Et il a parlé d'une certaine caisse qui aurait disparu, pleine de beaux dollars. C'est ça qui m'intéresse. Mais 200 000 dollars, c'est une somme. Et cette somme, il faut la gagner. Jette ton pistolet et mets ton pantalon.
Blondin, j'ai jamais vu un être aussi ignoble que toi.
Le village le plus proche est à 110 km. Si tu économises ton souffle, tu y arriveras facilement.
Que tu économises ton souffle ou non, tu crèveras à tout petit feu. Après toi.
Enrico Fulcignani.
La critique en Italie est faite en général par des esthètes. La notion du spectacle qui soit en même temps un spectacle pour tout le monde, c'est-à-dire du cinéma populaire, et en même temps avec une écriture raffinée, n'entrait pas dans la tête des gens. Les gens étaient convaincus qu'il y avait d'une part le cinéma noble, l'écriture raffinée, et d'autre part les autres, c'est-à-dire les amuseurs, les gens vulgaires qui se délectaient de trouver des thèmes vulgairement traités. Ça, c'était l'état absolu de la critique à un certain moment. Donc, au moment de l'exorde de Leone, je crois que ce rapport entre les jugements du public, qui a tout de suite pigé, il a compris tout de suite de quoi il s'agissait, et la critique a été nettement tranchée.
Masque et la plume.
Qui qu'il y a maintenant, je ne sais quoi, un film policier italien de Sergio Leone, et je n'ai pas vu ça. Il paraît que c'est très bien, le bon, la brute, le truand.
C'est un western.
C'est un western.
Alors, western.
C'est vraiment très très bien, Marc.
Non.
Non.
Non,
Marc Abreu,
c'est insignifiant, je crois qu'il n'y a vraiment rien à en dire.
Mais moi, c'est ce que je pensais, mais Jean-Louis m'a dit c'est formidable.
Alors. Mais alors, toujours au troisième, au quatrième, au degré, cinquième degré.
Oh, c'est vraiment au premier degré.
C'est le degré Bory. Bon, pour Aubryan.
Non, mais non. Moi j'aime le vrai western, c'est-à-dire le western chevaleresque où il y a un bon qui venge sa fiancée outragée ou son meilleur copain ou alors sa jument. Et là, il y a uniquement des salopards. Bon, puis des salopards qui se jouent des tours pendables. Il y a un côté paroxystique et effectivement notre ami Bory est très touché par le côté paroxystique déjà des Pâtres du désordre. C'est peut-être la raison pour laquelle il aimait aussi le film de Sergio Leone, mais finalement on a l'impression que c'est un pot pourri des situations, non pas du western américain, mais du western ersatz italien. C'est-à-dire que, bon, le film part dans 40 directions à la fois, il dure 3 heures, il pourrait durer 10 heures, il pourrait durer une semaine, il pourrait durer un mois, quoi, il n'y a pas de raison que ça commence non plus. Alors là, il y a effectivement, pour être tous morts, il y a au moins un millier de cadavres. Dès qu'un type sort son pistolet, il descend 20 personnes, quoi. Oui.
Et c'est alors, tourné en Espagne,
c'est tourné en Espagne. Moi, j'aime que le paysage ait du talent. Et pour une fois, le paysage a aucun talent. On respire pas vraiment le souffle épique du western. Puis alors, je sais pas, la parodie me gêne beaucoup dans des genres nobles. Il y a un côté Virgile travesti, quoi. Il y a une espèce de côté méprisant, et puis surtout dans le film, on sent chez Leone un immense mépris de ses personnages et un immense mépris de l'homme. Et je ne crois pas qu'on construit une œuvre belle ni une œuvre excellente si on méprise tellement ses personnages et si on méprise l'homme en général. Et ça m'a laissé sur une impression de gêne profonde, outre que je trouve le film assez ennuyeux, de gêne profonde et d'immenses désarrois, quoi. J'ai l'impression que c'est un genre, puisqu'il va en Amérique faire du western, il va apprendre maintenant à monsieur John Ford et à monsieur Raoul Walsh et à monsieur Howard Hawks comment on fait un western. J'ai l'impression que c'est un genre qui est en pleine décadence à cause de ça. Enfin, c'est...
Bien, merci Michel Aubryan. Georges Charansol est de cet avis.
Malheureusement, je crains que Sergio Leone, qui au début, en effet, faisait ces fameux spaghettis western dont on tourne 200 par an maintenant en Italie ou en Espagne, les faisait avec, en effet, une arrière-pensée parodique. Mais je crois que maintenant, malheureusement, il se prend au sérieux. Et il se prend tellement au sérieux qu'en effet, il a été engagé en Amérique pour tourner des westerns. Alors ça, je trouve ça très grave, parce que l'inauthenticité d'un film comme celui-là est une chose tellement aveuglante. Il n'y croit pas un instant, mais il fait semblant d'y croire. Peut-être arrive-t-il même à s'auto-suggestionner. Et alors ça, vraiment, moi, ça me déplaît profondément. J'ai été élevé sur les genoux du western, comme dirait Bory.
Oui,
j'ai été nourri à la mamelle
du western,
De John Ford,
la chanteuse de Saloon,
de Hawks et de leurs compagnons, et voir ce genre tomber entre les mains d'abominables salopards qui relèvent du coup de pied au cul, eh bien moi ça me gêne terriblement.
Comme dirait Bory.
Bon, merci Georges Charansol. Il ne reste plus qu'à Bory.
Mais avant, je voudrais insister sur un fait, c'est qu'il n'y a absolument aucun personnage féminin. Or, il y avait un grand agrément dans le western, c'était quand même l'aventurière de Saloon, c'était la petite fiancée, justement, dont on avait assassiné malencontreusement le papa et qui était décidé à le venger. Là, il n'y a pas de personnage féminin, à part les juments dont j'ai parlé plus haut. C'est quand même un peu triste.
Bien, merci Aubryan. Jean-Louis Bory.
Je crois que c'est un contresens total de s'attendre à voir un western. Il est bien évident que pour un Italien, faire un western, il n'y a aucune raison intérieure, viscérale, comme pour les Américains. Ça n'a rien à voir avec leur passé historique. Le western, pour eux, représente, si vous voulez, une armature aussi conventionnelle que celle de l'opéra italien. Et à l'intérieur de ces conventions, qui sont en effet purement conventionnelles, le shérif, l'étoile, etc., Sergio Leone et certains autres prennent ça comme cadre à l'intérieur duquel ils font des choses qui sont italianissimes. Ils font du cinéma qui est foncièrement, profondément italien, avec des personnages qui sont profondément italiens. Sergio Leone, c'est le grand opéra italien où il se fout totalement des règles du western, ce qu'il a voulu montrer. Et justement, là, il y a une énorme séquence qui n'a plus rien à voir avec le western et qui est démonstrative de ce que cherchent les Italiens dans le western actuel, et notamment Sergio Leone. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il utilise un des thèmes obligatoires, qui est la guerre de sécession. Bon. Il se moque de la réalité historique parce que pour lui, ce n'est pas son histoire comme pour un Américain. Bon. Il utilise la guerre de sécession pour faire des variations sur la solstice de la guerre, les massacres, etc. Et cela, là, ça devient prodigieux et intéressant. Et notamment, et c'est là où c'est démonstratif, c'est qu'il représente le camp des prisonniers sudistes tenus par les nordistes, non pas du tout comme on a l'habitude de voir dans les westerns, mais systématiquement, et même document à l'appui, il a représenté un camp de concentration tel oui, qu'ils ont eu lieu en 1945.
Attendez.
Mais oui! Mais oui, c'est intéressant.
C'est Andersonville.
C'est pas vrai.
Tu as lu Andersonville. Alors là c'est aussi dans la littérature américaine, quoi.
Ça m'intéresse à ce moment-là. C'est parce qu'à partir de ce moment-là, il dit des choses qu'on n'a pas l'habitude de monter sur les écrans, notamment concernant la torture, l'emploi de la torture chez les militaires et chez les militaires qui généralement sont couverts de toutes les bénédictions, comme les nordistes, etc. C'est à ce moment-là aussi quand il montre l'épisode du pont qu'on fait sauter, qui n'a aucun intérêt que ça saute, etc. Avec des massacres à l'appui. Bon, là, le western prend une direction qui n'a plus rien à voir.
Jean-Louis Bory, pardon de t'interrompre, mais ça me paraît quand même une voie très détournée, très esthétique.
Je vous dis rien. De parler c'est de pas la torture
à travers les sudistes, ça me
parce qu'il a envie de parler de la torture à propos de
Bach.
Il
a envie de gagner du fric.
Il la met en situation,
oui,
sa torture.
Mais il la met en situation dans un contexte militaire précis.
Bon, c'est un salopard qui fait n'importe quoi pour gagner du fric.
Non, c'est pas vrai.
Bon, parce que écoutez-vous,
il n'y a qu'à voir sa tête d'ailleurs en photo.
Ça, c'est bas. Ça, c'est bas. Non,
je voudrais dire un seul mot à Bory. Tu nous dis que la vérité historique n'a aucune importance, mais nous avons vu tellement de westerns que pour nous, il y a une vérité historique du western avec laquelle on n'a pas le droit de tricher. Pour lui, ça n'a peut-être pas d'importance, mais nous, spectateurs,
avons
vu des centaines et des centaines de westerns.
C'est comme si devant un opéra moderne, tu disais, je suis désolé, je suis habitué à l'opéra italien.
Mais ça n'est pas
l'opéra moderne. Si, c'est pareil.
Ça n'est pas un western moderne.
Si.
Non.
Là, là. Voilà, c'est pas là. Ils viennent. C'est exactement la définition du western à la Leone.
Bon, bientôt, ce sera même plus la peine de parler. On fera plus de tribunes. C'est eux qui
commenteront les films.
Ils font les films.
Ouais.
Bon, c'était donc le bon, la brute.
Et le truand.
Et
en plus, c'est très drôle.
Non, c'est pas drôle.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Là, ce duveni, après, quand je pensais de faire quelques dollars en plus, ça commençait l'histoire à moi. Ça veut dire l'histoire de l'amitié. Et je choisis sûrement l'amitié entre un homme âgé et un garçon. Et tout de suite après, il y a la trilogie, ça termine pour moi la première avec le bon, le brut et le truand. Et il y a la position des trois hommes. et la démystification des adjectifs. Qu'est-ce que ça veut dire, bon, brut, truand, surtout quand sont trois assassins vus dans une guerre civile. Ça veut dire que c'est le thème, si vous voulez, très cher à Chaplin, dans Monsieur Verdoux, avec tous les rapports qu'il porte.
Sur l'évolution de Léon,
Pierre-William Glenn, cinéaste.
C'est des films qu'il a tournés très vite, mais qui étaient très préparés et très écrits. Et très écrits, bon, c'est des films sur la mythologie du western, ce ne sont pas des westerns, ce sont des films sur le western, comme j'essayais de faire un film sur le fantastique. Et le public s'y retrouve, parce qu'ils ont l'impression qu'ils voient un western, alors qu'il fait un film sur le genre en même temps, ce qui est la grande caractéristique de... C'est pareil sur sa manière de filmer. C'est une manière de filmer qui est très peu... très peu orthodoxe. C'est toujours très surprenant. Son montage, son découpage est souvent très surprenant. Et en fait, il y a un rapport direct avec le spectateur, en fait, je crois, dans la mesure où il fait un film sur un genre, sur le genre en même temps.
On dirait qu'il tourne de l'autre côté de l'écran.
Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a une intelligence, une réflexion, bon, ce qui est aussi souvent un clin d'œil, qui était un clin d'œil sur le genre, qui est une réflexion et qui se voit dans sa technique. Je pense à l'utilisation du techniscope, qui était une idée, par exemple, extrêmement originale.
Et
qui n'avait pas été. Et alors, bien évidemment, ce sont des films qui sont, je crois qu'ils n'aiment pas particulièrement l'opéra, mais ce qui est sûr, ce sont des films qui sont montés, bon, c'est pas des clips, hein. C'est pas n'importe quelle image sur n'importe quel son. C'est que ce sont ce qui est très spectaculaire, même dans les films qu'il n'a pas réalisés, comme par exemple On n'a eu personne, c'est que on voit que la musique est écrite avant et qu'il y a des thèmes par personnage. Il y a une manière de filmer par personnage qui sont des choses auxquelles moi je suis personnellement très attaché. J'ai toujours tenu à ça dans tous les films, dans les films que j'ai faits. Il y a une manière de filmer un personnage qui est différente. Une manière de gros plan qui est différente sur les personnages, comme il y a une manière de thème. On voit qu'il est intervenu, à mon avis, au moins là-dessus, sur Mon nom est personne.
J'aime le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un hobby. Et alors, je pense toujours de prendre ma revanche des spectateurs. C'est à cause de ça que je fais ce que je fais. Et je le fais d'une façon vraiment naïve. Ça veut dire sincère. Parce que... C'est comme si quelqu'un veut détruire votre jeu. Alors, moi aussi, je me suis fait baiser de beaucoup de choses, surtout pour le cinéma américain. J'ai fait 58 filles comme assistant. Et j'étais toujours à côté du metteur en scène qu'on appliquait des règles. C'est à cause de ça, peut-être, que c'est venu. C'est une réaction à la règle. On me disait, il faut faire un gros plan. Quand le personnage il doit exprimer quelque chose de très puissant, de très fort. Et je fais l'inverse. Parce que pour moi, le gros plan, c'est l'expression de l'âme. Et alors, n'importe pas quoi, n'importe pas qui, il faut la faire voir d'une façon plus. Parce que aussi, une chose qui peut-être une auteur, il considère banale, il peut devenir très important. Ça dépend de quel point de vue. C'est la raison pour laquelle mon cadrage, que tout le monde il dit, hein, vous êtes professionnaire, parce que vous. C'est à travers le cadrage que, quelquefois, dans le cinéma, on peut arriver à donner des émotions très, très évidentes. Ça veut dire qu'il y a une sorte de dramaticité dans le cadrage même. Ce n'est pas le cadrage pour faire beau ou pour donner une impression. C'est le cadrage vu en fonction de la dramaticité. De les moments que je vais exprimer.
Tous les metteurs en scène importants du cinéma américain ont étudié ces films-là quand ils étaient étudiants, à savoir Coppola, Milius, on a Cimino, je crois, qui en tant qu'étudiant travaillait sur pour une poignée de dollars, Le Bon, la Brute et le Truand, et pour quelques dollars de plus. Les films de Sergio Leone sont extrêmement précisément, techniquement réalisés. C'est une utilisation extrêmement, à mon avis, la plus fine du techniscope, qui est un procédé qui est une tricherie sur le cinémascope. C'est une image sur deux perfos, donc qui est agrandie comme du 16 gonflé, et qui a été utilisée de manière tout à fait bluffante, comme du scope. C'est-à-dire qu'on a l'impression, bon, le problème, c'est que sur les plans très très larges, on a des problèmes de définition.
Le sachant très bien, c'est là qu'on est arrivé à des très très gros plans. On voit que ces films sont d'une précision absolue. C'est un type qui a été. Il a travaillé avec énorme. Il a été assistant très longtemps, donc ses plans sont, à mon avis, évidemment dessinés. Sinon dessinés, c'est quelque chose qui ressemble à la précision de Kubrick, à mon avis. C'est tourné bien évidemment beaucoup plus rapidement, mais c'est évident. L'utilisation de l'espace à partir du techniscope est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est un montage souvent très dynamique par la succession de plans très très gros et de plans larges, qui est aussi une des caractéristiques du style de Fuller, qui ressemble beaucoup au film de Fuller. Son acteur est un acteur extrêmement fin, Clint Eastwood est un acteur extrêmement fin.
Très marqué par Léon dans ses films.
Par Léon après. Bell Rider est évidemment un film qui est très marqué par Léon dans sa manière de se filmer même lui-même. Et c'est pareil, c'est un personnage qui n'est pas du tout un personnage grossier, c'est un personnage intelligent. Et c'est un personnage qui est filmé de manière extrêmement aristocratique, comme peut l'être James Coburn dans Il était une fois la Révolution, et qui parle de ça, et qui parle en même temps, c'est en même temps le sujet du film. Bien évidemment, c'est des choses qui ont un peu marqué ça. Léon, on en a parlé relativement vite, on en a parlé 3-4 ans après, c'est des films qui étaient un peu méprisés, on en a parlé assez vite. Bon, parce que évidemment, c'est difficile de passer à côté une manière aussi différente de filmer et d'appréhender le western. Ça me semble difficile parce que, évidemment, et ce qui est aussi évident, c'est que ça a marqué toute une génération de cinéastes américains.
Si tu me détaches, je n'en parle plus. Sinon, je vais voir les vers te manger les yeux et la figure. Oh mon Dieu, oh, comme je me sens mal. Oh, les voix de là, j'en peux plus. Le sang m'est monté à la tête. Oh, oh. Écoute, Blondin. De l'eau. Détache-moi si t'es un homme! Ah, tu t'en vas, t'as peur, hein? Viens ici! Charogne! Rien! Et d'où il sort celui-là? Dès qu'un coq tu s'en vas, il en arrive un autre. Qu'est-ce que tu veux?
La ferme!
La ferme! Ah. Bien, regarde. Tu la connais, cette sale gueule? C'est la tienne. La mienne? Qui vous dit que c'est la mienne? Déchirez ça! Je vous dirai après ce qu'il faut y mettre. Maudits soient les shérifs et celui qui les a inventés! Oh, mais il va lui donner de l'argent maintenant! Traître! Tu m'as vendu! Mais tu n'emporteras pas au paradis! Ah non, alors! Parce que s'il y a un peu de justice en ce monde, t'iras crever en prison comme un rat. Et tout est semblable, tous, jusqu'au dernier. Parce que t'es un beau salaud. Ah, t'en sais rien, mais moi, je le sais. Et les autres aussi, ils savent. T'es le fils de tout le monde. T'as pas un père, t'en as mille. Et ta mère, tu veux savoir, c'est une putain. Envoie la potence à un innocent qui a jamais fait de mal de son existence.
Déjà recherché dans 14 comtés de cet état. A été reconnu coupable d'homicide volontaire. D'attaque à main armée. De vol de banque et de services postaux de l'État. De vol d'objets sacrés. D'incendie criminel d'une prison de l'État. De faux témoignages. Bigamie. Abandon de domicile conjugal. D'incitation à la prostitution. D'escroquerie et d'extorsion de fonds. De recel. D'émission de fausses monnaies. D'usage de jeux de cartes et de dés truqués. D'agression et de coups et blessures.
On ne saurait rien du poncho de Clint Eastwood, de la lenteur tragique du western à l'italienne, de la façon dont Sergio Leone filmait les yeux de ses acteurs, ni de la séquence mythique du cimetière, duel mythique, ni même des 1500 soldats de l'armée franquiste qui participèrent au tournage, oui, c'est tout à fait vrai, et à qui Leone fit creuser des tombes. Mon sujet ce matin, c'est...
Ah ben on y est là.
C'est la partition d'Ennio Morricone, composée avant le tournage et diffusée par des haut-parleurs afin que les acteurs s'imprègnent de son inquiétante mélancolie, de son animalité, de ses chevauchées emphatiques et désespérées. Morricone n'est pas mon musicien, il est mon scénariste, disait Leone. Ils se connaissaient tous les deux depuis l'enfance, petits, ils allaient à l'école ensemble. À eux deux, ils pulvérisèrent les codes du folklore hollywoodien. Le western devenait d'un lyrisme et d'une âpreté jamais égalées. Dans une orchestration symphonique, vous entendez ce que nul Américain n'avait osé. On y va. Mélange de trompettes piccolo, guitare mexicaine, sifflement proche du yodel, ça c'était du jamais vu, bruitage de cloches et de fouets, musique électrique, instruments médiévaux, harmonicas et cordes qui s'envolent dans un élan à la fois baroque et expérimental. À chaque personnage sa sonorité, le bon, c'est Clint Eastwood, la flûte à bec soprano, la brute, l'arguilofono, c'est une sorte de petit pipeau en terre cuite, le truand, la voix imitant les coyotes du désert, car elle est là l'immense trouvaille de Morricone, sa signature sonore du western, l'utilisation de la voix, Eric, la voix comme instrument à part entière. Le compositeur était accompagné par la crème des solistes et par les chœurs d'hommes d'Alessandro Alessandrini. On discerne les co, co. Go, scandé, puis les hé, ho, qui se répondent en canon. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Celle d'Ennio Morricone a fait du râle un chant nerveux et mystique.
On imaginait un couple plus formidable et unique. C'est suffisant de voir un photogramme, même une photo d'un film de Sergio Leone, pour avoir en tête la musique de Morricone, et au contraire, si on écoute seulement quelques secondes de la musique de Morricone, immédiatement on voit les images. Donc ça veut dire qu'ils ont construit ensemble quelque chose d'unique, qui à mon avis est le cinéma moderne. Aujourd'hui, je pense, pour tous les cinéastes, là, c'est vraiment comme une école, voir le film de Sergio Leone, voir comment c'est possible de créer une art totale dans laquelle les images et la musique vont ensemble. À partir d'un moment de sa carrière, à partir de C'era una volta l'Ouest, Sergio Leone fait écouter la musique que Morricone compose avant le tournage, fait écouter la musique à ses acteurs et arrive à dire que Morricone est un de ses scénaristes pour la capacité de transmettre quelque chose que les paroles ne sont pas en degré de décrire.
The good, the bad, the ugly.
Thank you.